Mercredi dernier, le 27 avril, a commencé la campagne de test en cuve thermique de l'instrument Yazzie NG. Alors, ça ne doit pas évoquer grand-chose à la plupart d'entre nous, mais sachez pourtant que cet instrument nous concerne tous puisqu'il donne des éléments nouveaux sur la météo et sur l'environnement. Il est développé par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et il a été livré à Airbus pour une installation sur un satellite. Voilà un bel exemple de partenariat d'entreprise dont notre région s'enorgueillit d'abriter. Ce matin, je reçois Philippe Pham, directeur de l'Observation de la Terre et des Sciences à Airbus. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Pham, vous allez nous expliquer justement à quoi servent ces satellites qui nous tournent autour de nos têtes. Alors pour commencer, revenons sur cet événement Yazzie NG. Donc NG, ça veut dire nouvelle génération. Un instrument qui va être installé sur un satellite, que va-t-il apporter de nouveau ?
Alors Yazzie NG a été construit et testé par Airbus. Le CNES est notre client en fait, hein, donc ce n'est pas une livraison du CNES, c'est un instrument qui est fabriqué par l'industriel Airbus Defence and Space à Toulouse et donc qui a été développé depuis plusieurs années et qui rentre dans sa campagne finale d'essai au sol pour valider ses performances, sa fabrication avant le montage sur le satellite.
Alors une campagne au sol, ça dure combien de temps ?
Bon, ça dure plusieurs mois parce qu'en fait une campagne d'essai d'un instrument doit répliquer, simuler l'environnement qu'il subit lors de son montage sur le satellite depuis la phase de lancement, donc avec une phase qui est très stressante en termes de vibrations, en termes d'environnement, jusqu'à son utilisation en orbite dans des conditions de vide thermique et de conditions de température, de variation de température extrême tout au long de sa durée de vie, qui sera de 7 ans. Donc cette campagne d'essai est chargée de reproduire fidèlement l'environnement que l'instrument et le satellite vont vivre
dans l'espace,
au cours
alors,
de toute leur durée,
ouais,
de vie.
D'accord. À quoi va-t-il servir ce nouvel instrument ? Qu'est-ce qu'il va apporter de
C'est
nouveau ?
C'est un instrument qui, comme ça, son nom l'indique, est un instrument de deuxième génération, donc qui va améliorer significativement les performances de mesure d'un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre d'améliorer la fiabilité, la précision des prévisions météo dans un certain nombre de domaines et d'environnements aussi, de façon à avoir une utilisation beaucoup plus précise de ces données à des fins agricoles, d'environnement et de surveillance.
Alors si on est encore plus concret, en ce qui concerne ces données météo, on voit très bien ces images satellites au point information météo, voilà, au moment du journal télévisé, on voit ces images qui nous apportent, qui nous préviennent de l'arrivée d'un anticyclone. Est-ce que c'est ce genre d'images et ce genre d'informations que vous allez pouvoir obtenir de façon beaucoup plus précise ou est-ce que c'est complètement autre chose ?
Alors c'est un peu des deux, au sens où cet instrument va apporter un certain nombre de mesures que vous ne verrez pas simplement sur une carte météo au journal de 20 heures, mais un certain nombre de mesures supplémentaires de température, de constituants de l'atmosphère, de prise de paramètres qui permettent de beaucoup mieux connaître les températures, la vapeur d'eau, l'environnement terrestre, la surface terrestre en termes de température et qui permettront de fournir aux utilisateurs un certain nombre de données qui sont un peu étrangères à celui qui regarde le journal télévisé.
Oui, sans doute. Et vous avez évoqué l'agriculteur. Qu'est-ce qu'il peut obtenir comme information, par exemple ?
Des informations de stress hydrique, des informations d'humidité, des informations de température, de profil de température sur la surface exploitée, de profil d'humidité aussi, donc qui sont des paramètres qui lui permettront de prendre des décisions, d'anticiper, de se préparer, que ce soit sur les stress hydriques, sur l'hygrométrie, sur l'irrigation, sur un certain nombre de prises des décisions pour mieux maîtriser sa production et ce qu'il a à faire dans les semaines et les mois qui viennent.
Mmh. Vous nous parliez de cette phase de test où vous allez en fait voir comment l'instrument, mesurer l'instrument dans toutes les capacités et dans tout cet environnement qui sera le sien dans l'espace. Par exemple, vous disiez qu'il serait dans une cuve thermique. Qu'est-ce que ça veut dire, une cuve thermique ?
En fait, une cuve thermique, c'est une sorte de caisson dans lequel on reproduit le vide et puis on est capable de simuler des températures extrêmes en froid et en chaud, ainsi que des cyclages très chaud, très froid, des paliers, etc., qui visent à reproduire l'environnement et l'environnement global auquel le satellite et donc l'instrument va être exposé tout au long de sa durée de vie. Donc en fait, c'est vraiment une caisse, un caisson fermé, comme un caisson pour simuler des plongées, dans lequel on recueille un certain nombre de paramètres. On est capable de reproduire l'environnement et on mesure si le design, la fabrication et le comportement de l'instrument est vraiment comme attendu et qu'il va bien marcher.
Et donc après cette phase de test, l'instrument va être intégré au satellite et lancé dans une fusée pour rejoindre le satellite existant.
Alors en fait, une fois ces essais faits au niveau instrument, et on vérifie au travers d'essais mécaniques, vibrations, d'essais vide thermique, comme on vient de le dire, mais aussi quelques autres essais de type optique et performance, qui nous permettent de vérifier l'intégrité de l'instrument. Ensuite, cet instrument est monté sur le satellite, et le satellite lui-même va subir une série de tests très similaires
aussi.
Pour vérifier que l'instrument monté sur le satellite
ne vient pas perturber le
fonctionnement
du
satellite. Marche bien aussi. Et ensuite, effectivement, alors ce satellite METOP SG, satellite A, dont on a parlé la semaine dernière, devrait être lancé vers fin 2024 sur une Ariane 6 et prendra le relais des satellites météo d'aujourd'hui pour les 7 prochaines années.
Pour les 7 prochaines années. Vous avez évoqué aussi l'environnement, un satellite qui va fournir aussi plus d'informations. Est-ce que vous auriez une application concrète qui va être possible et nouvelle grâce à cette installation?
Oui, cet instrument fournit à la fois des données pour la météo, la climatologie et l'environnement. Donc l'ensemble des données produites vont être utilisées par un grand nombre d'utilisateurs institutionnels, les ministères, les instituts, des organismes de recherche, des agences, de façon à mieux connaître les constituants de notre atmosphère, mieux connaître l'évolution des températures à la surface terrestre, de façon à ce qu'on puisse prendre vraiment des décisions de plus en plus précises et de plus en plus impactantes, comme on en parle tous les jours, pour notre climat, pour notre planète.
Oui.
Donc en particulier sur l'évolution des températures, sur l'optimisation de comment déployer des développements urbains.
Oui, pour l'aménagement du territoire, en fait.
Aménagement du territoire, les fuites thermiques, les puits thermiques. Donc vraiment mieux connaître et optimiser toute l'implantation des différents développements qu'on doit faire.
Et oui. Alors nous savons que la fabrication des satellites repose sur l'utilisation de métaux lourds et pollue malheureusement. Les bénéfices obtenus pour l'étude des données récoltées par les satellites vont-ils permettre de contrebalancer ces inconvénients environnementaux?
Alors je suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont vous présentez les choses parce qu'en fait. D'une part, nous continuons à améliorer nos designs de satellites en faisant de l'éco-design. Je prends un exemple dans le domaine de la propulsion. Nous sommes passés, par exemple, de propulsion relativement polluante, non pas au sol, mais en termes de risque, de corrosion, etc., à de la propulsion électrique sur bon nombre de nos satellites. On évolue aussi sur les technologies batteries, sur les technologies de générateurs solaires, sur les électroniques. Alors en fait, ces satellites embarquent un certain nombre de développements technologiques qu'on continue à faire évoluer vers de l'éco-design. Nous bâtissons des satellites aussi qui seront détruits en fin de vie selon des normes bien précises en termes de rentrée dans l'atmosphère. Donc ils ne resteront pas en orbite, ils seront désorbités de façon à laisser la place à d'autres.
Donc ils se désintègrent en fait automatiquement en fin de vie.
Tout à fait, on a une propulsion qui les fait rentrer dans l'atmosphère. Donc on fait une rentrée qu'on appelle accompagnée dans l'atmosphère et le design est tel qu'il se séparera en plusieurs morceaux qui se consumeront à la rentrée dans l'atmosphère et qui ne laisseront aucune trace ni aucune pollution en orbite. D'autre part, quand ils sont lancés, on essaie de prolonger le plus possible la durée de vie de ces satellites de façon à ce qu'ils soient utilisés le plus longtemps possible bien sûr, l'apport de ces satellites en orbite est énorme puisque 50% des données exploités par le GIEC, vous avez vu que le rapport est sorti très récemment,
tout à fait,
sont fournis par de l'observation en orbite par des satellites. Donc la maîtrise de notre connaissance de l'environnement et de la climatologie de la planète Terre est essentiellement facilitée par le prélèvement de données grâce à ces satellites qui nous permettent ensuite de prendre les bonnes actions pour préserver notre planète, pour faire attention, pour prendre des mesures ciblées sur chacun des domaines. On a parlé tout à l'heure de l'atmosphère et de la surface terrestre, mais il en est de même pour les océans, les glaces, la couche d'ozone au pôle, les mesures du dioxyde de carbone, les mesures de méthane, etc. Sans les satellites, on n'aurait pas accès à cette connaissance.
Sans les satellites, il y a aussi peut-être une prise de conscience à avoir qu'il y a aussi des informations, outre celles pour l'environnement et pour la météo, qui donnent des informations pour défendre aussi son pays. On voit bien avec ces images des chars russes qui étaient les uns à la suite des autres en Ukraine. Je souris, mais ça n'est évidemment pas drôle. Est-ce que ces satellites permettent aussi de donner des renseignements en fait très, très précis à chacun?
Oui, tout à fait. L'observation de la Terre est en fait un domaine très large dans le domaine de l'espace et des satellites. C'est-à-dire, on vient de parler de climatologie, d'environnement, de météo. Il y a tout un domaine aussi d'observation de la Terre optique, infrarouge et radar, qui a des fins de défense, à la fois défense et civile, mais qui permettent effectivement de prendre de l'imagerie très précise, de couvrir l'ensemble du globe avec un degré de rafraîchissement et de couverture très important, dans différents types de domaines d'observation, depuis l'optique visible, c'est-à-dire comme si vous aviez un appareil photo en
très
orbite
précis,
qui prend des photos à 30 cm de résolution, jusqu'à de l'infrarouge, ça c'est de la vision de nuit. On peut par exemple aussi observer ce qui se passe la nuit en termes d'activité. Vous avez certainement vu des caméras infrarouges de nos soldats utilisées de nuit.
Mmh.
Et on a aussi de l'imagerie radar qui permet tout temps, jour, nuit, nuageux ou pas, d'avoir aussi un complément d'observation qui permet, quand on fusionne l'ensemble de ces données, d'avoir des données très précises d'observation en 2D ou en 3D pour un certain nombre d'applications de type défense.
Il y a aussi une autre application que les satellites permettent, c'est pour les entreprises, parce que certaines les entreprises peuvent avoir accès aux informations qui proviennent des satellites. Vous auriez un exemple concret à nous donner?
Oui, bien sûr. En fait, l'imagerie satellitaire est typiquement utilisée dans une quinzaine de marchés verticaux. J'appelle les marchés verticaux la surveillance maritime, l'énergie, gaz, pétrole, mines, bien sûr la défense, le cadastre, la surveillance d'infrastructures, l'utilisation aussi dans l'aéronautique. Donc, par exemple, on peut surveiller des côtes, surveiller la pêche, bien sûr, les applications agricoles. On a des applications de surveillance d'infrastructures pétrolières et minières pour voir, par exemple, combien est extrait dans une journée, quel est le trafic qu'on observe dans les ports. Est-ce que les réservoirs de pétrole des différentes zones de stockage sont plutôt pleins ou vides? Aujourd'hui, des applications logicielles, c'est-à-dire l'algorithmie, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le big data, permet d'analyser de façon massive l'ensemble des données et d'exploiter ces données à des fins d'information, mais aussi à des fins de décision dans un grand nombre de domaines. Donc l'observation de la Terre à une application vraiment très large,
oui,
et est utilisée, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien à des fins de défense que des fins civiles dans une bonne douzaine de gros marchés et aussi à des fins commerciales, puisque nous vendons par exemple de l'imagerie à Google, à Apple, à tous les grands, je dirais, du domaine, ainsi qu'à d'autres exploitants de l'imagerie.
Oui, en préparant cette émission, on voyait aussi qu'il y avait une application notamment pour un supermarché pour mesurer le taux de remplissage de son parking et pouvoir adapter.
Tout à fait. Alors, là, c'est une application assez particulière d'un client américain qui en fait cherche à connaître la fréquentation des grandes surfaces et en déduire une activité économique pour des prévisions boursières. Et en fait, ils se servent et ils nous commandent très régulièrement sur une base hebdo la fréquentation pendant les week-ends pour en faire des déductions d'activités économiques.
Donc voilà des applications multiples et variées qu'on ne soupçonne pas forcément. Merci beaucoup Philippe Pham d'être venu nous les présenter ce matin.
Merci pour votre invitation.